Pause Radio.
Femme 2024.
Tisser du lien entre femmes
sur le territoire nantais.
Un podcast réalisé dans le cadre d'ateliers de remobilisation socioprofessionnelle. Un atelier entre femmes en mixité.
Ah,
Jet. Épisode 1.
Le plus dur, c'est le... C'est commencer.
Fil enflammé, nœud sensuel. Fil enflammé, nœud sensuel. Fil enflammé, nœud sensuel.
Fil enflammé, sensuel.
Fil enflammé, nœud sensuel.
Fil enflammé, sensuel.
Fil enflammé, sensuel. En intimide, plus d'un.
La sensualité au fil de l'érudition.
Ces formes en lumière, quel émerveillement.
Wow.
Le rire comme un fil chaleureux.
Des bouches cousues bavardes.
Une âme à broder.
La force de la parole de celles qui sont fatiguées.
Alors Roselyne, elle aime broder, puis moi j'aime raconter. Donc on s'est associés, et sur le thème, ça a été vite choisi, parce que toutes les deux, pour plein de raisons, on avait envie de travailler sur la Loire. Donc on a le sujet, on avait notre duo, on avait le sujet, maintenant il n'y avait plus qu'à. Alors moi j'ai commencé à chercher, à savoir ce que j'allais vous raconter, et puis Rosine, elle a commencé à penser à sa broderie. Et avant de broder, il faut dessiner. Donc là, elle a fait ce dessin à main levée, c'est pas un dessin de cartographie, c'est pas de la cartographie marine, c'est vraiment un dessin qui représente sa Loire. C'est sa Loire à main levée, d'après ses souvenirs, et ses souvenirs de la Loire telle qu'on peut la voir du haut du belvédère de Saint-Florent-le-Vieil. Et elle a dessiné là un peu tout ce qui représente la Loire. Vous voyez, tous les remous, tous les îles de la Loire, les bancs de sable, et puis les rives qui sont vraiment complètement aléatoires parce que ça s'assèche, il y a des crues, les rives bougent beaucoup.
Ça m'a métamorphosée. Claudine, elle dit que j'ai des clins d'œil, mais là, je lui en fais un parce qu'effectivement, la personne à ce bout-là et celle qui est en amont n'était pas la même. Puisqu'en fait, ça représente à peu près une année de travail avant de passer à l'acte dans les réflexions. Et puis, toute la méditation et les pensées que j'ai eues ont été éclairantes.
Une fois qu'elle a fait ce dessin, il fallait trouver la technique. Et là, la technique, elle a choisi une technique médiévale qu'on n'utilise quasiment plus depuis le XVIIIe siècle. Cette technique, c'est la technique de couchure. Alors cette technique de couchure, elle s'appelle également les points rachés. Mais moi, j'ai préféré couchure. Parce que le mot couchure, ça rappelle déjà la Loire. La Loire, c'est des couches de sédiments, c'est caractéristique de la Loire. Mais c'est aussi l'ancien nom, le premier nom de la Loire, c'est Liga. Et le Liga, ça vient quasi en direct de la racine indo-européenne leg. Et leg, ça veut dire ce qui se dépose. Bon, on avait tout, on avait tout ce qu'il fallait. Maintenant, vous allez découvrir la broderie.
Alors la broderie, ça peut venir d'une transmission familiale. Même si ce n'était pas très évident, par exemple, ma mère ne m'a jamais appris à faire une aiguillée, mais des moments passés, la voir broder, Je voudrais rendre hommage en fait à ma mère, tout simplement parce qu'elle est handicapée, elle a eu un AVC, elle ne peut plus parler. Et pendant toute cette année de travail, je prenais des photos et quand j'allais la voir, je lui montrais. Et elle montrait un réel intérêt, donc elle a suivi ça quinzaine par quinzaine. Et il est vrai que je me remémore des moments où en fait... j'étais petite et elle m'a mis un canevas dans les mains. Donc, c'est vrai que le canevas, bah, c'est en fait, je pense, comme ça que j'ai appris, avec les points les plus simples. Et je lui dois aussi quand même cette méthode, la méthode de travail, parce que maman s'organisait tout le temps. Elle avait ses tiroirs, ses petites affaires. Elle n'hésitait pas à traduire de l'anglais si elle voulait une explication d'un point. Et en fait, c'est vrai qu'à la retraite, elle s'est mise à broder. Bon, peut-être que j'ai un peu suivi ses traces, je ne sais pas. Mais elle a fait des pures merveilles, des sacs, des broderies en point de bailleux. Et il y a des cadres à la maison de toutes ses réalisations. Et peut-être que la transmission, c'est un petit peu intangible. Ce n'est pas forcément apprendre à faire un nœud et un point. C'est peut-être aussi tout cet environnement visuel que je voyais, cette organisation, ces tiroirs, tout cet étiquetage. Et ça m'a énormément servi pour la broderie. M'est venue à l'idée comment elle pouvait se débrouiller, se démerder avec des petits bouts de carton, des numéros, des épingles à linge américaines. Là, que tout d'un coup, je me suis dit, mais oui, ça va être ma technique pour tenir mes fils. Et en fait, voilà, je voulais lui rendre hommage parce qu'en fait, elle était là et puis elle a suivi ça de très près.
La technique de couchure, la caractéristique, c'est qu'il y a toujours un travail avec deux fils. Il y a un premier fil qu'on appelle le fil de couche, qu'on pose sur le tissu. Et ensuite, le deuxième fil, c'est un fil de maintien, où on fixe le fil de couche sur le tissu. Cette technique, la brodeuse l'a trouvée le lendemain de notre décision de faire cette broderie. Elle était en Bretagne et le lendemain, elle avait été dans un enclos paroissial autour d'une église à Sizun, dans le Finistère. Et dans cet enclos paroissial, elle a vu une bannière avec le visage d'un saint qui était en technique de couchure. Comme elle brode depuis très longtemps, elle a tout de suite compris ce que c'était. Comme ce fil de couche qu'on pose sur le tissu, ben, il est facile à techniquement à emmener là où on veut et ça permettait de faire tous les remous hein, qu'elle pouvait souhaiter. Ça l'intéressait aussi parce que ce fil, elle l'emmène du début à la fin. Et c'est les mêmes fils qui commencent ici, qui vont jusqu'au bout et même que vous avez jusque par terre, hein, voilà, qui continuent. C'est le même fil. Donc symboliquement, ça l'intéressait pour rendre compte du cours de la Loire, de ce fleuve qui s'arrête jamais.
Le plus dur, c'est commencer. fallait se lancer. Et donc, je l'ai fait de façon régulière. Pour moi, c'était une rencontre de tous les jours. Tous les jours, après le travail, Je l'avais en tête puisque je rentre en vélo. Déjà, je me préparais, je rentrais, puis je me mettais régulièrement à peu près 2 heures par soir. Et les week-ends. Et les week-ends, des journées entières. Mais avec plaisir, à chaque fois. Il fallait donc structurer mon fil. Et puis là, pour moi, c'est important d'être dans les remous. Pour après aller dans l'idée de fin vers une fluidité.
400 heures sur pencher sur cette broderie. Imaginez un grand cadre où est fixée la broderie et un cadre qui peut basculer. Parce que quand c'est au bord, ça va encore, mais au milieu, parce que la brodeuse travaille avec une main dessus hein, et qui maintient le fil de couche et qui pique l'aiguille, et une main en dessous qui va récupérer l'aiguille et la remettre. Avec le cadre qui bascule en permanence pour pouvoir atteindre hein, la partie en dessous.
Une des premières fois, c'était un après-midi je n'avais plus du tout de notion du temps, parce que je me suis dit, bon, si j'ai fait ça en 20 minutes, ce sera à peu près bien. Et il y avait 3 heures de passé. Et ça représentait ça, j'ai dit, ok. C'était vraiment un timbre-poste que j'avais fait. J'ai eu un grand moment d'angoisse, parce que par rapport au dessin, arrivé ici, ça ne me convenait plus, ce que j'avais dessiné. Il a fallu réinventer des choses. Et là, j'ai passé une semaine ou 15 jours dans un abîme d'angoisse. J'étais perdue. En fait, c'était le plus dur, c'était le départ, c'était oser. Voilà. Et une fois que j'ai osé, il n'y avait plus qu'à faire, en fait. Et découvrir et s'adapter... justement au fil, aux textures, parce qu'en fait on croit que c'est des flux, et les flux, bah, peu importe si le fil il va à droite ou à gauche, personne ne pourra me dire, bah non, l'eau ne fait pas ça. Et en fait, si, y a des choses qui étaient incohérentes, donc il fallait corriger, enfin, je ne sais pas. Pour moi, c'est une grande adaptation aussi aux matériaux. C'est des tonnes de choses, en fait.
Colette, elle écrit, elle est muette. Quand elle coud, elle est muette pendant des heures, elle se tait, et, écrivons le mot qui fait peur, elle pense. Vous imaginez 400 heures de pensée, hein, chez la brodeuse. Qu'est-ce qu'elle a dû penser, hein, elle nous racontera ça elle-même plus tard. Donc ce mouvement de la pensée, eh bien, il est très présent dans les mythes grecs. Le plus connu, que vous connaissez peut-être, hein, est dans l'Odyssée. L'Odyssée, ça veut dire Ulysse, mais un autre personnage très très important, c'est Pénélope. Hein, c'est la femme d'Ulysse. Alors Ulysse, un guerrier qui va partir à la guerre pendant 10 ans, le mettre 10 ans après à revenir chez lui. Bref, il est absent pendant 20 ans. Et sa femme, Pénélope, on la présente toujours comme celle qui attend pendant 20 ans son mari. Et qu'est-ce qu'elle fait pendant ces 20 ans? Elle tisse. Elle tisse à son métier à tisser. Et elle tisse le jour et la nuit, elle détisse ce qu'elle a tissé dans la journée. Alors pourquoi? Parce que pendant 20 ans, le palais, donc Ulysse est roi, hein, roi de l'île d'Ithaque, Pénélope est sa femme, elle est reine. Et pendant 20 ans, il y a les prétendants qui sont là et qui disent « Mais non, il est mort, remarie-toi ». Et donc ils sont là pour, ils occupent le palais, ils boivent, ils mangent et ils attendent que la reine Pénélope se décide à reprendre un mari. Ils veulent la femme, mais évidemment derrière, ils veulent le trône. Hein. Donc Pénélope, c'est pas qu'elle attend son mari en s'ennuyant, et là aussi, tous ces siècles hein, où on a plutôt présenté Pénélope comme ça, hein, elle attend, elle n'a rien d'autre à faire la pauvre que de faire son tissage, ben, c'est pas ça du tout. Hein. C'est pas ça du tout parce que Pénélope, elle tient bon. Pendant 20 ans, elle tient bon, vous voyez, avec tous ces hommes qui veulent absolument la voir, hein, et qui, en plus, sont débrouillés pour avoir tous les... ils ont donné de l'argent aux serviteurs, qui ont tous trahi Pénélope, enfin, elle est seule, isolée, avec tous ces hommes hein, qu'on appellerait maintenant des prédateurs sexuels, qui sont là, et c'est elle qui va donner sa règle. Et la règle, c'est... Je ne me remarierai que lorsque j'aurai fini mon tissage. Donc, et comme la nuit, elle détisse ce qu'elle a fait dans la journée, ça peut durer longtemps. C'est comme ça qu'elle a attendu 20 ans. Et le tissage, c'est pas n'importe quel tissage. Elle est en train de tisser le linceul du père d'Ulysse. C'est dans l'Antiquité, toutes les femmes devaient faire le linceul, hein, ce drap dans lequel on entoure les morts. Ils tissaient le linceul de la génération précédente. Donc là, symboliquement, vous voyez, il fallait qu'elle termine son devoir par rapport à la famille où elle était avant de passer à une autre famille et de se remarier et d'aller tisser les linceuls de toutes les générations précédentes dans l'autre famille. Mais là, il fallait qu'elle termine, sauf que pas question de terminer. Donc vous voyez comme elle est forte et comment là, le tissage, c'est pas histoire de passer le temps en attendant son mari. Le tissage est son levier de résistance. Son levier d'émancipation, c'est ce qui va lui permettre de résister à tous ces hommes. Donc là aussi, la lecture Hein, elle est différente. Aujourd'hui, il y a heureusement des femmes de votre génération qui font des lectures et qui éclairent celles qui, comme moi, ont gobé toutes ces histoires de Pénélope qui s'ennuyait devant son tissage. Maintenant, et je me fais un plaisir de transmettre ce que j'ai pu lire récemment.
Les dictionnaires de grec, dans lesquels moi j'ai appris, j'ai fait toutes mes études là-dessus, les dictionnaires ont été faits par des hommes du 19e siècle, qui avaient la vision des femmes qui étaient ou bien des prostituées ou l'épouse. Hein, parfois l'une à chaque bout de jardin, hein, comme nos auteurs, Émile Zola, Victor Hugo, ils étaient avec leur femme, et puis il y avait leur maîtresse qui habitait à l'autre bout du jardin. Enfin, bon, c'est un peu cette structure-là. Ces gens-là, le dictionnaire de grec, le gros machin, là, c'est Bailly. Et ben, monsieur Bailly, lui, il a vécu là-dedans. Et donc, il fait le dictionnaire de grec, mais dans lequel moi j'ai fait toutes mes études. Et par exemple, vous savez, Athéna. Enfin, toutes les divinités, elles ont toujours un adjectif. Et Athéna, déesse de la sagesse, de l'intelligence, de la stratégie guerrière, Athéna, son temple, elle est dite Parthénos. Parthénos, c'est, vous savez, ça a donné le Parthénon, le temple à Athènes, le Parthénon. Et Parthénos, moi, bonne étudiante, hein, sérieuse et tout, Parthénos, ça, je lis, Monsieur Bailly me dit, ça veut dire vierge. Moi, j'écris vierge. Hein. Et puis, dans les histoires, parce que les mythes, j'apprends qu'elle a des histoires avec des hommes, avec des femmes. Je dis, ah bon, bon d'accord, bon, je ne comprends pas trop. Mais moi, hein, je traduis, je vais être prof, hein, je passe mon agrégation. Je ne réfléchis pas trop, quoi. Hein. Ça me désole comme je ne réfléchis pas, d'ailleurs. Et là, récemment, y a des hellénistes, donc des jeunes femmes, qui disent, mais Parthénos, ça ne veut pas dire vierge. Ça veut dire qu'il ne veut pas se marier. Ça veut dire libre, qu'il choisit la liberté. Justement, d'avoir des histoires avec des hommes, avec des femmes, et qu'il choisit de ne pas se marier. Ben pour moi, là, c'est quand même éclairant. J'étais très, très furieuse contre tous ces hommes qui avaient donné les outils que moi, j'ai utilisés pendant des années. Et en fait, il a fallu que j'attende plus de 60 ans pour vraiment avoir enlevé le vernis misogyne du 19e et relire autrement. Donc moi, j'ai relu tous mes textes, hein, Hésiode en particulier, qui nous raconte toutes les histoires. J'ai relu Ovid, j'ai la chance de pouvoir lire dans le texte. Donc moi, j'ai relu les textes, mais à un moment donné, des clés. Parce que le dictionnaire, et moi, si j'avais 25 ans aujourd'hui, je retraduirais le dictionnaire de grec. Parce que c'est l'œuvre d'une vie. C'est pas moi qui le ferai, mais je sais qu'il y en a qui vont le faire. Ma mère, elle était complètement... Enfin, c'est le livre qui était important dans sa vie, sa bibliothèque, le livre. Elle s'ennuyait beaucoup. Son père tenait un café avec ma grand-mère qui était à la caisse du café. Et elle était dans les étages, seule, fille unique. Elle s'est beaucoup ennuyée. C'était la lecture. Et c'est la lecture qui a accompagné toute sa vie. Et moi, j'ai été élevée dans le culte du livre, avec une grande bibliothèque. J'enseigne en métier du livre. J'ai été présidente du pôle régional livre et lecture. J'ai toujours été dans le livre. Et vous voyez, c'est encore à moi, c'est avec des livres sur les genoux que je fais mon duo avec Rosine. Donc, les mamans sont là. Hein, les mamans sont là, chacune avec le mode qui les a vraiment, qui les a réjouis, quoi. Ma mère a essayé de m'apprendre les points. Elle voulait que je sache coudre et tricoter et broder. Et moi, j'ai toujours bloqué là-dessus. Je n'ai jamais eu envie de le faire. Même ma fille est brodeuse. Elle m'a demandé de travailler sur les mythes des puissances textiles pour des projets, parce qu'elle fait elle-même des projets en art vivant où elle brode sur scène et où elle fait un travail avec des compagnies de théâtre et des compagnies chorégraphiques. Donc, c'est assez étonnant que je me retrouve à présenter ce travail, à m'acoquiner avec une brodeuse, parce que bon, bah, je suis une mère fan de sa fille. Et donc, y a vraiment, pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de cohérence. Vous voyez, c'est drôle quand on se laisse aller, quand on laisse les rencontres et les choses se faire, comment ça tricote.
C'est l'amitié de Code Secret. Au tout départ, Roselyne, elle brode depuis longtemps, et elle coud, elle tricote, et elle aime faire des cadeaux. Donc un jour, elle m'a apporté une tête de minotaure, une tête de taureau, de la couleur de ton gilet, un beau vert. Elle me l'a apporté, et c'est comme un trophée, vous savez, comme une tête. Et moi, dans ma cuisine, il y a ce trophée, cette tête de taureau tricotée. Et j'ai une amie qui était chez moi et qui avait un cancer et qui a passé, en fait, ses derniers mois chez moi. Et bon, on ne savait pas que c'était ses derniers mois. Mais donc, elle était chez moi et elle rêvait d'en avoir un aussi, un trophée comme ça. Et je les ai fait se rencontrer. Et on a été déjeuner ensemble. Et là, pendant le repas, elles ont découvert que l'une et l'autre, elles adoraient la Loire. Et mon amie Erika a commandé à Roselyne une broderie sur la Loire, une broderie de la Loire. Et 6 mois après, Erika est décédée. Et à ce moment-là, on nous a proposé de faire un duo. Et là, on s'est dit, eh ben, on va faire la Loire d'Erika. Et c'est une façon de la faire aussi vivre encore. Moi, je pense aussi, je ne suis pas la seule à le penser, que créer quelque chose, enfin, que continuer à penser à ceux qui sont morts et continuer à créer ce qu'ils auraient aimé créer ou accompagner, je crois que c'est encore une façon de vivre. Parce que moi aussi, je pense que la vie et la mort, il n'y a pas ce clivage que nous impose notre culture. Et en fait, Erika, à chaque fois qu'on le présente, nous, on sait qu'Erika est là et que c'est pour elle et que c'est elle qui continue d'avoir sa part dans le monde, dans notre monde, grâce à cette broderie.
Ce qui m'importait au départ, c'était quelque chose qui soit plus grand que moi. Je ne sais pas comment dire. J'avais envie d'être dans quelque chose où je rentrerais dedans. Donc ça a répondu à ça.
Thank you.
C'était le podcast des ateliers Pause Radio Femmes 2024.
Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur la plateforme de Jet.
castpod.jetfm.fr